RCF.
Bonjour à tous et joyeux Noël. Vivre autrement, la fête et le quotidien, eh bien c'est la proposition de Grand Angle aujourd'hui, en partenariat avec le mensuel Panorama, avec aussi une petite surprise pendant l'émission. Là en studio pour parler de la fête et du quotidien, Fanny Chéroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste rédactrice en chef de Panorama. Dans le numéro de Noël, on trouve un grand entretien avec Iri De Luca, un reportage au Mexique sur les traces de Notre-Dame de Guadalupe, que vous avez suivi, et puis des portraits de migrants qui vivent en exil, et enfin un conte de Noël écrit par Christiane Rancé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, biographe du pape François, de Tolstoï et de Thérèse d'Avila, un livre qui a été distingué par l'Académie française, et vous signez donc le conte de Panorama, La virevolte de l'ange, que nous allons découvrir dans quelques minutes. Tuc du Helderville, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous êtes responsable associatif, engagé dans le débat sur les grandes questions éthiques. Vous travaillez depuis quelques années sur la définition d'une écologie humaine, et puis vous êtes aussi chroniqueur chaque vendredi dans la matinale de RCF, animé par Stéphanie Gallet. Votre dernier livre est un peu un cadeau de Noël, ou en tout cas des pistes intéressantes. 67 recettes de bonheur, publiées aux éditions Emmanuel. Allez vivre autrement la fête et le quotidien, on en parle aujourd'hui. C'est Grand Angle, c'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Vivre la fête et le quotidien, vivre la fête de Noël, déjà, j'ai envie de vous demander à chacun, Noël, c'est quoi? Quel sens a pour vous cette fête de la nativité, Fanny Chéroux?
Cette année, c'est un peu l'urgence des cadeaux, parce que j'ai complètement oublié de les faire. Du coup, je sais pas comment j'en suis arrivée là, mais je me suis dit que j'avais fait aucun cadeau encore. Et j'ai entendu parler d'une tradition dans d'autres familles où on n'offre qu'un cadeau. On tire au sort et on choisit un cadeau pour une personne, et je crois que je vais l'instaurer dans ma famille, ça.
Ça sera plus simple pour toi.
Ça va tranquilliser.
En fait, Noël aujourd'hui, Christiane Rancé, qu'est-ce que signifie la fête de Noël pour vous?
La famille, le retour en famille, et puis quand il y a des enfants, c'est merveilleux parce qu'on est, c'est l'esprit d'enfance retrouvé autour d'une table avec tous ceux qu'on aime, sa famille, mais aussi ceux qui viennent s'inviter au dernier moment parce qu'ils n'avaient rien prévu ou leur famille est loin. Donc ça donne de très très jolies grandes familles.
Noël, portes ouvertes. Tuc du Helderville?
Je trouve qu'il y a, pour moi comme un contraste, un tiraillement entre l'agitation, parce que la fête est, on le sait bien avec toutes les contraintes qu'elle pose, une agitation, et puis la contemplation. Il y a quelque chose d'un grand silence dans la crèche. Et au fond, il y a une bataille pour ce jour. Est-ce que je vais réussir à trouver ce temps de silence qui va vraiment me faire regarder l'objet de la fête, le sujet de la fête, la personne, enfin le verbe incarné, c'est quand même pas rien. Et le risque, c'est de passer à côté. De temps en temps, je me suis dit, après le 25, mais je suis peut-être passé à côté parce qu'il y avait tellement de choses qui se sont passées familialement dans la journée. Donc c'est un petit combat aussi.
Eh ben, on va prendre le temps d'en parler simplement pendant une heure, et puis aussi le temps de s'en réjouir après l'émission, sans doute. Fanny Chéroux, c'est en feuilletant Panorama, je lisais un petit peu tout ce qu'il y avait dans votre numéro, le bel entretien avec Iri De Luca, mais aussi ces portraits de migrants. Ça veut dire que quand on fête Noël, on n'oublie pas les épreuves, les conflits, les difficultés de notre monde.
Noël, pour être un peu plus sérieux que tout à l'heure, Noël, c'est quand même, je trouve, le rendez-vous de l'infiniment grand avec l'infiniment petit. Et c'est toujours assez... moi, j'essaie d'un peu de le revisiter chaque année... j'essaie de trouver des paroles qui me font regarder Noël d'une façon différente. C'est toujours très fort, ça, de pouvoir revivre un rendez-vous avec un éclairage différent. Et c'est vrai que ce numéro de Panorama, à travers notamment ce dossier sur l'exil et ces témoignages d'exilés dans le monde entier, sur des grandes crises migratoires dont on entend parler dans les médias presque tous les jours, les Rohingyas, la Méditerranée, ces lieux qu'on pourra presque plus jamais regarder de la même façon.
Sachant aussi que ce chemin d'exil, il est pas forcément du sud vers le nord, il peut être
du
Venezuela
vers l'Espagne.
Non, il y a
des rendez-vous plus originaux, effectivement, plus inattendus, en fait.
De Birmanie au Bangladesh, vous avez des portraits, des témoignages qui montrent
de tous
que
les âges et c'était
les
important,
migrations, pour dire le dossier, sont vraiment dans tous les sens.
Oui, et puis c'était, je pense, important de le voir à travers des âges différents. Si on a donné la parole à des enfants, parce que un exil, un exilé, c'est une expérience toujours très personnelle, et c'est vrai que c'est un peu le flou de notre époque. C'est plus on entend parler de quelque chose, plus on va le banaliser. Et dès qu'on regarde l'humain et son individualité, là, d'un coup, ça redonne chair, ça redonne sens. Il y a une compassion qui se met en place. Et c'était un peu ce qu'on recherchait à travers ce dossier.
Christian Transnet, vous avez insisté sur la dimension familiale de cette fête de Noël. Là aussi, on y vient, on est heureux de se retrouver. Et puis, on y vient peut-être aussi chacun avec son histoire, ses blessures, ses difficultés. C'est un moment où on peut s'écouter en famille peut-être davantage.
On s'écoute rarement dans les grandes réunions.
Bon, donc c'est pas Noël qu'il faut faire ça.
C'est pas Noël, mais effectivement, la veille de Noël, la messe de minuit, ça c'est un moment, c'est un moment qui est très très fort en communion. C'est le silence à côté et la prière à côté de quelqu'un de sa famille qui est en silence et en prière. C'est surtout au moment de la messe, effectivement, qu'on peut célébrer ce mystère. Mais sinon, dans le brouhaha de la fête, du repas, au contraire, c'est chacun
c'est
exprime, voilà, chacun reprend une place dans une espèce de jeu qui s'est mis en place depuis très longtemps. Puis aussi, Noël, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est aussi la fête de la famille, c'est l'aboutissement de cette famille qui s'est créée dans ce couple, avec la naissance de cet enfant, et c'est aussi une fête de la famille, le mystère de la famille.
Et puis on peut aussi avoir une pensée pour ceux qui aujourd'hui se trouvent peut-être un peu seuls parce que la famille est loin, parce que la famille est distendue peut-être aussi.
Oui, j'avais rencontré j'avais été invitée à donner des conférences sur une croisière, et j'avais donc parlé avec les jeunes femmes qui travaillaient sur ces bateaux et qui me disaient que le moment le plus terrible, c'était Noël, parce qu'ils ne pouvaient pas être ils avaient noué des amitiés, ils étaient ensemble, mais le fait d'être loin de leur famille, ce jour-là spécialement, ils le vivaient tous avec une grande tristesse et dans un grand état de manque.
Duc de Valderville ?
C'est vrai que l'épreuve est souvent indissociable de la fête. Alors, on vient de le dire, il y a des personnes qui souffrent spécifiquement quand tous les autres font la fête. Et alors, peut-être Noël, c'est particulier parce que celui que nous fêtons, il est déjà un tout petit peu exilé. Hein. Il n'est pas forcément né là où il aurait dû naître. Et puis, il va être migrant dans pas très longtemps. Et donc, il y a une pauvreté aussi. Il y a quelque chose de très fragile. Il y a déjà une épreuve dans cette naissance qui peut nous aider, si on la regarde, à rendre un peu moins superficielle nos fêtes. Puis je voulais dire aussi, peut-être ces vacances de fin d'année qui sont lieu de retrouvailles, c'est peut-être des moments aussi où on peut faire des bilans intéressants si on canalise la conversation familiale. On peut donner quelques règles de vie. De temps en temps, ça nous est arrivé, pas toujours, mais de dire, voilà, est-ce qu'on pourrait chacun à son tour raconter un moment fort de notre année, par exemple. On se retrouve là. Voilà. Et dans ces maisons, qui deviennent souvent maisons de famille quand on y célèbre Noël, il peut y avoir une écoute qui n'est pas du tout naturelle dans ce brouhaha. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Christian Drancet, mais qui peut peut-être aussi apporter beaucoup quand on donne vraiment à chacun la parole et qu'on essaye, sans ironie, sans jugement, de vraiment écouter ce que chacun veut confier qu'il a sur le cœur.
Voilà, n'hésitez pas à utiliser les recettes de Tuc du Valderville, parce que c'est le grand chef du bonheur. Hein,
oula, c'est pas sûr. Vous pouvez les appliquer,
voilà. En tout cas, je dis ça simplement parce que je le disais donc en introduction, hein, vous publiez 67 recettes du bonheur. On va rentrer dans le détail, mais 67, pourquoi ?
Ça rime avec... J'en avais fait 67, et puis je voulais essayer de dire que voilà, c'est pas... comme une sorte de menu à réussir, c'est des choses à piocher en fonction de ce que notre cœur nous en dit. Donc
chacun peut vivre.
Il y a quelque chose qui peut être à la fois ludique et cependant, j'espère, un peu profond derrière une façon de prendre du recul et de se dire qu'est-ce que je choisis vraiment. Et sachant que je viens de le dire d'ailleurs, le bonheur c'est un combat, c'est pas juste un moyen d'être entre guillemets zen, c'est pas ça, c'est comment que je peux être vraiment pleinement homme ou femme, le devenir davantage, m'humaniser. Et je pense qu'en regardant autour de nous, bien chacun d'entre nous, on peut inventer de nouvelles recettes et les partager. J'espère que ça donnera des prolongements.
Alors 67 recettes, je pioche, il y en a qui sont, j'ai envie de dire, du bon sens finalement. Quand vous écrivez apprendre à s'ennuyer, goûter pleinement l'existence, s'humaniser, ralentir. Il faut se rappeler ces règles élémentaires peut-être du bonheur.
Mais regardez, sur l'ennui, moi je suis un bon exemple de celui qui de plus en plus, grâce à son bien-aimé smartphone ne s'ennuie plus tant que ça dans les queues de la boulangerie où je prends mon repas à midi. J'ai tendance à continuer à regarder l'écran et à perdre de vue les clients, les autres personnes, peut-être le mendiant du coin de la rue. Et au fond, c'est un énorme travail pour nous de effectivement ralentir, de quitter cette frénésie. Parce que c'est toujours plus excitant un petit écran que le fait d'attendre sans rien faire. Or, les spécialistes nous le disent, ces temps de latence, ces temps d'hiver, ces temps où il se passe rien, sont des temps très féconds. Mais nous n'en avons plus tant que ça, il faut les conquérir, il faut conquérir le fort intérieur. Donc en l'écrivant, je l'écris pour moi-même, et d'ailleurs ceux qui m'écoutent souvent me disent « mais applique-les pour toi, ça serait déjà pas mal
». Ah, celui qui donne la recette a-t-il le droit de goûter? En tout cas, il peut s'y exercer. Le bonheur, on va écouter quelques notes de musique qui nous parlent justement de bonheur. Laissez-vous aller au bonheur. C'est Berry qui chante une chanson de 2008, Vivre autrement la fête et le quotidien. Mais on en parle aujourd'hui, en ce jour de Noël, avec Fanny Chéroux, Christiane Rancé et Tuc Dual-Derville.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Christiane Rancé, ce que nous conseille Tuc Dual-Derville dans ses recettes, finalement, c'est peut-être aussi d'être attentif à notre vie intérieure. On se laisse prendre par le rythme du quotidien.
Oui, être attentif à sa vie intérieure et en même temps, effectivement, sur l'ennui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je regrette qu'on ne laisse plus les enfants déjà s'ennuyer. Il y a une éducation de l'ennui, cet ennui de ces heures qui paraissent interminables quand on est enfant, où on est presque désireux de sortir de son corps, mais qui permettent de s'ouvrir aux autres plus qu'à soi-même d'ailleurs, parce qu'on est on a tendance aujourd'hui, avec toute la technique, d'être complètement centralisé sur soi-même, avec son smartphone, ses petites histoires, ses centres d'intérêt, et puis qui sont les centres d'intérêt des autres. Tandis que là, quand on s'ennuie, effectivement, ce que disait Tuc Dual, c'est d'être obligé de s'ouvrir et de s'ouvrir aux autres et à l'autre, et ne serait-ce que dans un jardin, à la nature, de se mettre à écouter le rythme des saisons. Et ça implique un respect, ça implique une porosité au monde. Et je pense que le bonheur commence par cette porosité au monde et cette conquête de soi, même si ça passe par des expériences de la souffrance, c'est-à-dire de la découverte de la mort dans la nature, d'un oiseau qui peut être blessé, de l'hiver où tout est en sommeil. Il y a effectivement cette perception du cosmos, ce rapport avec le monde et avec l'autre qu'on va pouvoir rencontrer, que ne peut donner que cet exercice d'ennui au départ, qui donne évidemment une tendance à la grande d'ouverture.
Peut-être qu'il faut trouver, Tuc Dual-Derville, je vais vous poser la question, des rituels dans notre existence, mais j'ai envie, Fanny Chéroux, que vous nous disiez d'abord ce rituel d'Eri De Luca, enfin, qu'on connaît bien, mais qui est toujours assez époustouflant, de sa lecture de la Bible en hébreu tous les matins.
Eri De Luca, c'est sûr que dans le genre, on se sent humble à côté. Enfin, on se sent vraiment pas grand-chose.
On l'avait rencontré en Italie.
Ouais, il vit à côté de Rome, dans une ancienne étable. Donc c'est une maison toute en longueur, en fait, avec des pièces qui s'enfilent comme ça, dans un style un peu ancien, avec des portes dans des passages inattendus. Et Eri De Luca, on parle d'ennui, c'est un homme qui a vraiment dompté sa solitude. Et ça, on le sent dans sa littérature, mais quand on le rencontre, on sent qu'il y a une vraie cohérence avec l'homme. Et ce rendez-vous matinal avec le texte hébreu qu'il a appris seul, en fait, en autodidacte, en hébreu ancien, c'est sûr que ça, c'est une discipline, en fait. Et je pense que l'ennui, ces recettes au bonheur, c'est une discipline à avoir. Ça, en fait, le bonheur, on croit que c'est simple. Des fois, on dit aux gens qui sont heureux, mais toi, de toute façon, ça va toujours. Mais en fait, je pense que le bonheur, c'est une des plus grandes disciplines à avoir. Enfin, cette quête-là, c'est une des choses les plus exigeantes sur Terre.
Oui, ça exige l'attention, ce que disait Simone Veil, cet exercice d'attention très aigu. Et au texte, là, je pense que, effectivement, sur je le dis au passage parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet entretien avec Eri De Luca. Il est très, très enrichissant. Et il apprend, effectivement, cette attention au texte et au monde en même temps.
Eri De Luca, écrivain, alpiniste, Tuc du Helderville. Oui, des petits rituels, une certaine discipline, des habitudes.
Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les rites qui sont magnifiques quand ils nous aident à structurer, à se sentir poussé dans le temps. Ils peuvent devenir ces rites à un moment donné de la fatalité. Ils peuvent devenir délétères, des habitudes finalement
qui ne sont plus habitées.
Oui, qui peuvent être une façon de ne plus s'ouvrir à ce qui dérange, à s'ouvrir à l'imprévisible. Moi, je me suis, à plusieurs reprises, parce que j'essaie d'écrire en fonction de ma propre expérience, je faisais des choses importantes, positives, et j'étais dérangé par un homme assis par terre qui me disait « Vous n'auriez pas 5 minutes pour discuter ?» J'ai dit « Non, parce que là, j'ai une chose importante. Ce que j'avais à faire était important. » Et il a explosé en sanglots, cet homme. Et je me suis rendu compte qu'il était plus important que ce que j'avais à faire d'important.
Ce qui était déjà
et
important.
Et peut-être un petit peu rituel. Et donc, effectivement, je crois que en se donnant un rendez-vous à soi-même, moi, c'est une chose, à la fois je le dis, ça me donne envie de le faire. Voilà, prenons rendez-vous avec la personne qu'on aime le plus au monde. On peut espérer que c'est soi-même. Avec elle, en tout cas, on va finir notre vie. Donc, il faut que quand même, on le supporte.
Jusqu'au bout.
Et bien sûr, ça va, dans ce qu'a dit tout à l'heure Christiane, le fait de... Ça nous ouvre tout de suite aux autres. Hein. On va se dire... Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bien pour moi? Quels sont les rites qui sont bons, que je devrais établir ou réétablir? Mais quelle est aussi l'ouverture à l'imprévisible auquel je vais décider de consentir? Parce que le pasteur disait, le hasard ne favorise que les gens préparés. Mais si au début de ma journée, je me dis, je vais me laisser déranger, ça va être sympa. Parce que si tout est prévu dès le début, c'est une vie inintéressante. Si je ne savais pas avant ce qu'allait se dire autour de la table, il n'y aurait pas cette grâce du présent d'éternité qu'on vit ensemble. Et de ce fait, choisir aussi de se laisser déranger, c'est une façon d'être heureux de l'être quand on l'est et de reconnaître justement dans ce dérangement un petit clignement d'œil du bonheur.
Et bien ce clignement d'œil, c'est joliment dit, du bonheur, on va essayer de le percevoir à travers ce conte que Christiane Rancet a écrit pour Panorama, La virevolte de l'ange, un ange gardien qui descend sur terre pour tenter de récolter quelques bonnes actions de la part de son petit protégé. Et ben lui, peut-être qu'il est enfermé dans des rites et rituels qui sont pas tout à fait adaptés, en tout cas qui sont pas tout à fait porteurs de bonheur. La virevolte de l'ange. Donc, le texte de Christiane Rancet a été mixé, monté, mis en onde et en musique, réalisé par Pierre-Henri Paget. On écoute.
Au premier dimanche de l'Avent, les anges sortirent de leur éternité vaporeuse et le paradis pétilla d'effervescence. On préparait l'anniversaire de Jésus, que supervisait avec un sourire attendri la Sainte Vierge. 2018 ans, ce n'était pas rien même pour Dieu. Comme toujours, le souvenir de l'Annonciation plongea l'archange Gabriel dans un trouble heureux. À l'évocation de sa rencontre avec Marie, ses plumes s'irisaient. il était si radieux que personne n'osait altérer sa béatitude en lui demandant d'aider aux préparatifs. Les séraphins, quant à eux, trépignaient d'impatience et qu'au soir de Noël, ils pourraient enfin, en contemplant l'enfant, contempler Dieu, dont la vue leur était interdite le reste du temps, obligés qu'ils étaient de protéger leurs yeux en les couvrant de deux de leurs six ailes. Et c'était à celui qui cueillerait le plus plumeux des nuages, le plus rose des arcs-en-ciel pour décorer la crèche. Les anges musiciens accordaient leurs harpes et leurs flûtes. Les anges psychopompes réfléchissaient à l'âne et au bœuf qu'ils feraient monter au ciel pour la cérémonie. L'archange Raphaël narrait avec force détail comment il avait guidé les rois mages dans leur long périple jusqu'à Bethléem, car c'était bien lui qui en avait eu la charge, en bon patron des voyageurs. Bref, tout le peuple ailé du ciel s'activait pour fêter Noël et chanter la paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Cependant, chez les anges gardiens, l'humeur n'était pas aussi festive. Disons-le, elle était plutôt studieuse et chez certains même carrément inquiète. Dans quelques jours, ils auraient à présenter leur livre de comptes. Il s'agissait d'un cahier où ils notaient pendant l'année les bonnes actions, les prières et les paroles attentionnées de leurs protégés. Au soir du 24 décembre, Saint-Pierre collectait l'ensemble et le remettait au roi mage afin qu'il dépose ses bouquets de grâce aux pieds du divin enfant. C'était là leur présent, l'or de la bonté, la myrrhe de la parole consolatrice, l'encens parfumé des prières de tous les hommes vivant sur terre. S'ils constataient que leur carnet était trop chichement rempli, les anges gardiens devaient descendre sur terre pour tenter de rétablir la balance et susciter un sursaut dans les consciences de leurs protégés. Saint-Pierre savait combien la tâche pouvait être ardue pour certains, et s'il n'exigeait jamais qu'on lui remette un cahier de 500 pages, il demandait toutefois qu'aucune des trois colonnes de l'année en cours ne reste vide. Il tenait à ce que l'ange gardien soit capable d'apporter une preuve de ses bons soins, quelque chose qui montrait qu'il avait su toucher l'âme de son protégé, de provoquer dans son cœur un peu de miséricorde, un petit frémissement mystique. Or, cette année-là, parmi tous les anges gardiens, Eulaliel était le plus à la peine. Son cahier était absolument vierge. Rien, dans aucune colonne, ni prière, ni bonne action, ni parole consolatrice. Il savait que son protégé filait du mauvais coton, mais à ce point. Ou bien, lui-même avait-il tout à fait manqué de vigilance ? Saint-Pierre lui fit remarquer qu'un échec aussi retentissant, Eulaliel ne l'emporterait pas au paradis, et il l'envoya sur terre. On ne dira jamais assez l'aversion qu'un ange peut éprouver à descendre sur la terre et tout l'amour pour ses frères humains qui lui est nécessaire pour s'y résoudre. Non pas pour se rendre dans un de ces beaux paysages que Dieu a su composer, emplis d'animaux élégants et de fleurs fantasques. Non pas pour plonger au cœur du puissant océan où les étoiles du cosmos vont passer leurs vacances, mais dans les villes grouillantes d'automobiles, stridentes de bruit, emplies d'une humanité affairée, et qui n'était plus capable de prier ou de rêver que devant des vitrines de magasins. Des villes très villes, et pavées de mauvaises intentions. Eulaliel en frémissait, car c'était dans une de ces cités qu'habitait celui dont il avait la garde, Doniphane. Doniphane était un garçon de 12 ans. Depuis sa naissance, Eulaliel, qui fut le premier à se pencher sur son berceau, pouvait en témoigner. Il arrachait à ceux qui le regardaient de grands « oh » et autant de « ah » tant il était beau, une beauté d'ange. Les cheveux d'or, des yeux d'azur, une peau de pêche et l'air de ne jamais y toucher. Seulement voilà, Doniphane y touchait, et beaucoup. On ne pouvait même pas l'accuser de vol, car il obtenait tout ce qu'il voulait simplement en plongeant son regard dans celui du propriétaire de l'objet qu'il convoitait. Un léger sourire, un profond soupir et, comme par magie, on venait lui offrir ce que son insatiable convoitise réclamait. Doniphane avait très tôt pris conscience de ce don, et d'emblée il l'avait exercé sur son entourage. Quoi qu'ait eu à eux, son frère et sa sœur, il l'obtenait. Que l'un ou l'autre, revenu du charme, réclame son dû, qui son train, qui son ballon, qui son paquet de bonbons ou ses bandes dessinées, il se voyait débouté dans sa demande par leur mère. Elle n'avait Dieu que pour Doniphane, et elle-même ne refusait rien à cet enfant qu'elle jugeait, pour sa beauté, comme un cadeau tombé du ciel. » À l'école, Doniphan avait étendu son pouvoir. Il se faisait faire ses devoirs, donner les goûters, remplir sa trousse des crayons et des stylos des autres et son cartable de leurs livres et de leurs trésors personnels. Jusqu'à peu, songea Laliel en atterrissant discrètement sur le trottoir après un léger vol plané, Doniphan consentait à faire un effort pour son père et sa mère ainsi que pour ses professeurs, les premiers par amour véritable, les seconds par intérêt. L'année précédente, Eulaliel avait encore pu noter dans son cahier tel baiser sur le front maternel, telle parole consolatrice à sa sœur que ses camarades rudoyaient à cause de lui, et de temps en temps, au sortir de la boulangerie qu'il quittait les poches pleines de gâteaux et de bonbons, la boulangère l'adorait, telle friandise à l'enfant qui mendiait devant la porte. Et puis, Doniphan avait eu 12 ans. Ce jour-là, il s'était regardé attentivement dans un miroir et s'était, à cet instant précis, aimé passionnément. À monsieur le curé qui lui avait recommandé le dimanche suivant d'aimer son prochain, il avait répondu qu'il n'aimerait plus que lui-même, certain de n'être pour le coup jamais déçu et de se rester toujours fidèle. Et il lui dit adieu. Il n'adressa plus la parole à ses frères et sœurs qu'il jugea trop laids, railla les défauts de ceux qu'il rencontrait. Et d'ailleurs, il ne rencontra plus personne qui trouve grâce à ses yeux. Plus de friandises au petit mendiant qu'elle jugea indigne de ses attentions. Plus d'effusions tendres avec sa mère ou son père. Il déserta l'église et le soir, la pratique de la prière. D'ailleurs, pour qui aurait-il prié? Il obtenait tout ce qu'il voulait, n'avait rien à demander et le sort des autres le laissait indifférent. On le voyait désormais déambuler sur le chemin du collège, guettant avidement son reflet dans les vitrines et son reflet lui suffisait parce qu'il le remplissait d'aise. Guettant aussi les affiches publicitaires où il posait, vantant ici un yaourt, là un vélo, là encore une barre chocolatée. Sa mère n'avait pas résisté aux sirènes des agences de mannequins. Comment vais-je m'y prendre ? Se demandait avec appréhension Eulaliel en suivant de loin son protégé. Comment émouvoir ce garçon fasciné par lui-même, si plein d'autosatisfaction qu'il n'existait aucune place pour rien d'autre en son âme ? L'ange gardien sentit les larmes lui monter aux yeux, à l'idée que Doniphan serait exclu des donateurs, des bontés et des prières qui chaque année servaient de fortifiant à l'enfant Jésus. Sans ces grâces, sans les marques d'amour des uns pour les autres, comment l'esprit de Noël pourrait-il se dilater pour se poser cette douce nuit comme un baume sur les hommes et sur le monde ? Lui, Eulaliel, serait-il responsable de cette absence ? Il tendit l'oreille aux cieux, et l'écho des fifres et des tambourins qu'il perçut, celui des joies rieuses et des chants cristallins dont il s'était privé par manque de vigilance, lui laboura le cœur. Inconscient du drame moral que vivait son ange gardien, étanche à sa présence dont il ne ressentait aucun signe, ces signes qu'on perçoit dans le frémissement de la brise, le déplacement léger du rideau, la fugace impression de bonheur qui nous habite quand nos anges nous visitent, Doniphan marchait à pas rapides. Il avait rendez-vous avec une équipe de cinéma pour un film publicitaire au bénéfice d'un grand magasin. Il était de méchante humeur. Pour la première fois, malgré ses cajoleries et son air enamouré, sa mère lui avait refusé l'autorisation de participer à ce tournage au prétexte de ses devoirs. Il était bien déterminé à désobéir et à ne pas rentrer chez lui ce soir-là. Eulaliel trottinait maladroitement derrière lui. Il n'avait pas l'habitude de marcher et usait mal de ses pieds tout neufs, chaussés pour la circonstance. Ses ailes aussi étaient douloureuses, écrasées sous le manteau qui en cachait l'existence aux passants. Et son auréole, aplatie sous son gros bonnet de laine, congestionnait son pauvre front enfiévré d'inquiétude. Voyons, voyons, mais comment provoquer un émoi chez ce garçon ? L'amener à prier ? Il n'y pensait pas. Mais un petit mot ou un geste consolateur, du fond du cœur ? Une bonne action ? Il scruta le paysage autour de lui, les rares flocons qui mouchetaient l'air, les guirlandes de Noël, les passants affairés, à la recherche de quelque chose susceptible de l'aider dans son entreprise de rédemption. Il usa alors de tous les petits subterfuges propres aux anges gardiens pour réveiller nos consciences et s'échina sur le trajet à attirer l'attention de son protégé sur d'indiscutables occasions de faire le bien. Une femme enceinte à un nom sous le poids de ses paquets, Un couple tremblotant de vieillesse, incapable de trouver le courage de traverser l'avenue. Un enfant en pleurs dont le doudou avait roulé dans la boue d'une neige fondue. Un mendiant squelettique qui claquait des dents sous une veste d'été. Un garçon de son âge, seul et qui hoquetait de larmes. Rien n'y fit. Doniphan traçait sa route, insensible au monde, un léger sourire aux lèvres quand il croisait son image à la surface des matières réfléchissantes. Et Dieu sait s'il en rencontrait. Le soir tombait quand ils parvinrent devant les larges portes du magasin. C'était la sortie des écoles et les parents avaient entraîné leurs enfants devant les vitrines où des féeries d'automates animées de jolies scénettes. Ballerines à l'opéra, batailles de jouets, combinaisons savantes de trains électriques. Il y avait nocturne et foule dans les rayons de ce temple de l'abondance. Eulalie, elle oublia ses ampoules aux pieds et pressa le pas. Maintenant, Doniphan courait presque, bousculant sans excuse à son passage, écrasant quelques pieds, renversant les cadeaux amoureusement empaquetés. Si les anges connaissaient la transpiration, Eulalie serait arrivée en sueur dans la salle où Doniphan déboula quelques minutes plus tard. On était sous les toits du grand magasin et toute une équipe de caméramen, d'éclairagistes et de décorateurs s'agitait déjà au milieu d'un groupe de comédiens. « Ah ! Te voilà, mon bel enfant !» fit une femme armée d'un storyboard. « Dépêche-toi de t'habiller !» Ton costume t'attend au vestiaire, là-bas. » Il fallut peu de temps à Eulaliel pour comprendre l'objet du tournage. Une scène de paradis où, selon une mode curieuse qui sévissait depuis quelques années sur Terre, on confondait l'enfant Jésus et le Père Noël, les prières et les commandes de cadeaux sur Internet. Il devina aussitôt le rôle qu'allait jouer son protégé, un ange bien sûr, dont Doniphan, à l'instant même, revêtait l'aube blanche. Pris de court, l'esprit préoccupé par la recherche de nouveaux prétextes à rédemption à offrir à la conscience du garçon, asphyxié par la chaleur proprement infernale qui régnait dans ces lieux, Eulaliel oublia qu'il était lui-même déguisé. Il ôta inconsidérément son manteau et son bonnet. Aussitôt, ses grandes ailes se déployèrent et son auréole se mit à rayonner d'une lumière exquise et douce. Oh, cher monsieur, fit Doniphan ébloui avec l'idée qu'il avait affaire à un comédien. Mais où avez-vous trouvé ce déguisement ? Il s'avança et, coulant dans les yeux de l'ange le plus tendre de ses regards, tandis que Eulaliel ne pouvait pas détourner le sien, il soupira. J'aimerais tant porter ses ailes avec cette auréole. Ce serait parfait avec cette aube blanche, non ? Dans un état second, incapable de résister à tant de suavité et trop innocente pour comprendre qu'il se faisait plumer, Eulaliel confia ses ailes et son auréole à Doniphan. Et d'un pas lourd, il lui emboîta le pas jusqu'à la scène du tournage au cœur du grand magasin. Quand Doniphan apparut, ce ne furent que des « Oh !» et des « Ah !» des soupirs, des petits rires d'extase. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le bruit se répandit dans les étages qu'un ange était présent et on accourut en foule. Des femmes s'évanouirent, des enfants déposèrent leurs cadeaux au pied du garçon. Eulaliel se sentit totalement dépassé. Il fallut toute l'autorité de la régisseuse pour calmer l'émoi et on se tut enfin. Doniphan était au nirvana. Le plaisir posa deux nuages roses sur ses joues et lui fit des lèvres de cerise. Jamais, jamais il n'avait été aussi nombreux à l'admirer avec une telle intensité. L'admirer, l'adorer, il n'avait Dieu que pour lui, alors même que le tournage commençait. Des comédiens déguisés en jouets suivaient un Père Noël bonasse qui les poussait dans sa luge. Doniphane agita doucement ses ailes merveilleuses et imprima un léger mouvement circulaire à son auréole pour qu'elle déploie dans sa giration l'arc-en-ciel dont elle semblait extraite. Et c'est alors qu'eut lieu le désastre. Pour parfaire l'ambiance, la régie avait prévu, Noël oblige, un cœur d'enfant. Personne ne les avait remarqués jusque-là, tant l'assemblée était hypnotisée par la beauté de Doniphane. Et les aurait-on remarqués qu'on aurait détourné le regard ? Ils étaient tous incontestablement différents. Dans une curieuse euphorie qui l'avait portée à la confusion, la régie avait jugé que la présence de Blanche-Neige, sa pomme et ses sept nains apporterait la touche suprême de magie, indispensable pour un écoulement rapide des produits dérivés. Le cœur se mit en place sans qu'un seul regard ne se détourne du visage de Doniphane. La musique cristalline d'un chant de Noël se fit entendre, et puis, tout soudain, un enfant, nain et bossu, se mit à chanter. Ce fut magique pour tout le monde et miraculeux pour Eulaliel. Un court instant, l'ange se crut de retour au paradis. Le bossu chantait l'amour de la mère pour l'enfant, l'attente de Noël. Et avec sa voix, c'était tout l'amour de Dieu qui se déversait dans le cœur du public. Les spectateurs pleuraient doucement de bonheur, leurs têtes ployées comme celles des colombes, l'âme suspendue à cette cantate. Le petit bossu interprétait sa partition avec toute sa foi. Il faisait plus que l'interpréter, il l'incarnait, avec cette préscience du don qui est d'essence amoureuse, avec le désir vibrant d'offrir ce que ce chant portait d'espérance et de joie. Que c'est beau, mais qu'il est beau, ne purent s'empêcher de murmurer des gens en buvant ses paroles et ses notes. Quel ravissement! Doniphane était abasourdi. Quoi? Cet être difforme lui volait son public? Et cette voix? Cette voix merveilleuse, oh, il la voulait pour lui. Mais comment la voir ? Il comprit d'un seul coup qu'il aurait beau charmer le nain, il ne pourrait jamais posséder ni sa voix, ni son don. Pour la première fois de sa vie, quelque chose qu'il convoitait lui était refusé. Alors son visage se tordit de douleur. La jalousie contracta ses traits. Et lorsque la foule applaudit à tout rompre, Doniphane verdit de mauvaiseté. « Non mais regardez ce bouffon » siffla-t-il en agitant rageusement ses ailes. « Mais regardez-le avec sa bosse !» Jamais souffrance plus vive ne fulgura dans l'âme de Laliel. Cet enfant, car c'était encore un enfant, cet enfant qu'il devait protéger, brûlait de frustration haineuse. Et ce spectacle était d'une laideur insoutenable. Scandalisée par l'insulte, la foule gronda. « Mais c'est abominable ! Quelle honte ! » s'écria une femme en tournant les talons, tirant ses enfants à sa suite. Doniphane vit le reste des spectateurs entourés, avec un mélange de tendresse et d'admiration, le petit bossu. Il les vit s'écarter de lui, il les vit le montrer du doigt, il vit leur aversion dans leurs yeux. La régisseuse, son storyboard à la main, fondit sur lui. Elle lui prit vivement le bras. « Mais comment as-tu osé ? Que c'est méprisable ce que tu viens de faire ! Tu as ruiné ce tournage ! Regarde-toi ! » Elle lui tendit un miroir. Doniphane hoqueta d'horreur. Était-ce bien à lui, ce regard torve, cette bouche mince, ces joues contractées par la jalousie et la méchanceté ? Il dut s'observer longtemps, car lorsqu'il releva les yeux, le magasin était vide. Il n'y avait plus que le comédien qui lui avait prêté ses accessoires. L'homme était assis dans un coin, tout ratatiné. « À vous !» ragea Doniphane en arrachant ses ailes et son auréole qu'il jeta aux pieds de l'ange. « Vous, mais c'est de votre faute tout ça !» Et il partit en courant, donnant des coups de pied dans les étalages, dévastant les décorations, déterminé à faire le plus de dégâts sur son passage. Il fallut un petit moment à Eulaliel pour sortir de sa prostration, puis remettre ses ailes, son auréole, son manteau et son bonnet. Quand il rattrapa Doniphane, il le trouva hagard et écumant, immobile devant le magasin, posé sur le trottoir comme un récif, dont la foule des badauds, effrayée par sa fulmination, s'écartait avec crainte. Cette situation tout à fait inédite pour Doniphane le paralysait. Il ne comprenait plus et scrutait ses visages hier encore sous son charme. Eulalie devina en un éclair l'occasion qui lui était offerte. Discrètement, il ôta son bonnet, prit son auréole et la mania avec habileté pour éclairer le visage des passants. Apparurent alors lumineusement le sourire des mères à leurs enfants, les yeux amoureux et admiratifs des fiancés, la main qui caresse une joue, la main qui en serre une autre, l'étreinte consolatrice de deux amis, la gentillesse d'un sourire entre deux inconnus. Dans la lumière angélique, la beauté de tout cet amour, cette beauté gratuite du don librement consenti, resplendissait. Ces regards, cette tendre complicité, ces rires amis, jamais Doniphane ne les avait connus. Il les contemplait, hypnotisé à son tour, tandis que dans la vitrine derrière lui, son reflet nimbé d'ombre faisait comme un trou noir vaguement maléfique. Il tourna la tête et il vit Eulaliel. Et dans le regard de Eulaliel, il vit non pas le dégoût général qu'il inspirait désormais, non pas cette admiration béate à quoi il avait été depuis toujours habitué, mais la douceur et de la compassion. Il vit une tendresse presque douloureuse et un amour entier, un amour fidèle et absolu, un amour angélique. Il reçut en plein cœur l'image de sa propre mère qui, morte d'inquiétude à cet instant, se tordait les mains d'angoisse. Il revit le visage de ses camarades se détourner à son passage, la tristesse froide de son frère et de sa sœur, l'incompréhension du petit mendiant devant la boulangerie à qui il n'offrait plus que son mépris. Il vit sa solitude. Alors Doniphane comprit, le petit garçon en lui s'éveilla et son âme s'épanouit. Il courut vers Eulaliel, son ange gardien, et s'abattit contre sa poitrine. Et il pleura, pleura, pleura. Entre ses pleurs, tandis que Eulaliel l'emportait dans ses ailes pour le ramener chez lui, il murmura trois phrases. Et chacune de ces phrases emplit le cahier de myrrhe, d'or et d'encens. Pardon, merci, je t'aime.
La virevolte de l'ange, le conte de Noël écrit par Christiane Rancé et publié dans Panorama, que Pierre-Henri Paget a enregistré et monté pour nous aujourd'hui, ce beau conte de la virevolte de l'ange. Merci à tous les deux. Alors, il faut laisser faire la magie du conte, mais peut-être quand même dans le studio, vous étiez tous très attentifs. Fanny Chéroux, l'impression?
Ah bah c'est fabuleux quand les pages d'un magazine... Vibre, sonne, résonne, je trouve c'est fabuleux. Ce conte pour moi, c'est au-delà de cette forme-là, je pense que c'est un très beau moment qu'on vient de vivre. Ce que j'aime, c'est qu'il nous rappelle à cette fête de Noël comme ce moment qu'on ne peut pas posséder mais qu'on ne peut que recevoir. Alors bien sûr, il faut donner, on en a parlé plus tôt, mais. Cette idée de juste réapprendre à recevoir, et ça c'est une vraie discipline, hein, puisqu'on en parlait.
Ça fait partie des recettes hein, de Tuc Duhaldéry, recevoir. Comment vous avez reçu le conte ?
J'étais dans la foule à différents moments, je me suis promené, j'étais très émerveillé par l'incarnation de cet ange en fait. Et ça m'a fait penser à l'île Bouchard où paraît-il... Jacques Inaubry et les autres ont vu ses plumes vibrer. Je ne sais pas si l'inspiration venait de là. Et j'ai trouvé aussi qu'on se demandait bien comment il allait s'en sortir. Et je trouve qu'il y a un suspense qui est extraordinaire et le dénouement tout à fait ultime est très émouvant. Et puis je trouve aussi que l'entendre en présence de celle qu'il a écrit et de celui qu'il a mis en musique, c'est un grand privilège. Merci.
Mm-hmm. Christiane Rancé.
Oui,
comment votre texte qui vous échappe là du coup maintenant, qu'est-ce que vous ressentez?
Ben, c'est toujours un petit peu gênant, c'est toujours un peu de la gêne, parce que c'est s'exposer tout d'un coup dans quelque chose qui est devenu extérieur à soi, qui est ce qu'on a écrit, qui est le livre. Mais je remercie la mise en relief avec ce choix de musique, et c'est un très très beau travail. Et puis j'espère que ce conte plaît assez aux auditeurs, voilà, parce que j'ai beaucoup aimé l'écrire. Et je remercie vraiment Fanny Sherwood de m'avoir donné l'opportunité d'écrire un conte de Noël, parce que c'est une forme que j'aime particulièrement, le conte. Je suis une grande admiratrice de Marcel Aimé, et donc il y a quelque chose d'une très grande liberté qu'offre cette forme d'écriture. On peut dire des choses profondes sur une forme très légère.
Voilà, la virevolte de l'ange à écouter, à réécouter. Tu dois le dire, vous y ajoutez.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on entend ce conte, comme les beaux contes de Noël, on a envie d'être meilleur. C'est-à-dire le narcissisme qui est ici dénoncé.
Donifan, quel sale gosse.
Voilà, c'est le nôtre par bien des aspects. Et bien, les trois paroles finales, et bien c'est cette prière qu'on a envie de faire nôtre. Et je trouve que c'est très beau de pouvoir, avec une histoire inventée, d'une certaine manière, élever l'âme de ceux qui l'entendent et leur donner envie d'être meilleur. Ça, c'est magnifique comme fruit de l'inventivité de quelqu'un qui invente un conte.
C'est vrai que c'est la force du conte, c'est qu'il est autant fait pour les enfants que pour les petits que pour les grands, finalement.
On a tout ça en retirer.
Je redis encore une chose, c'est trop formidable qu'il y ait des magazines, des mensuels ou pas, qui ouvrent leurs pages à ce que j'appelle vraiment de l'écriture, de l'écrit dans cette forme, que ce soit un conte ou autre chose, mais qui tout d'un coup rouvre l'horizon de l'écriture. Donc je redis merci.
Voilà, alors dans le conte, on sent bien effectivement on peut se retrouver dans différents personnages, hein, comme vous l'avez dit, Tudual Derville. Je reprends dans votre livre, hein, les 67 recettes du bonheur. Là aussi, au moment où vous dites la recette 59, c'est bannir le futur, et la 60, c'est croire en l'avenir. Ça veut dire qu'on est parfois pris entre deux extrêmes, et qu'il faut travailler justement dans l'entre-deux.
Je trouve que souvent les proverbes se contredisent et il faut deux proverbes pour trouver un équilibre. Par exemple, je sais pas, on met pas ses dents dans le même panier et en même temps, courir deux lièvres à la fois pose problème. Donc, et là, c'est un peu ce qui se passe. Je crois que le futur, c'est un temps de toute puissance. Et il mérite d'être réajusté par un si Dieu veut ou par une prudence, une humilité. On ne sait pas. Demain, on ne sait pas. Alors, on connaît aussi les paroles de malédiction que, imprudemment, les parents peuvent donner à un enfant. Tu vas tomber, par exemple. Et attention à ne pas tomber, parce que si on le projette dans la chute inéluctable, soit il fait mentir ses parents, soit il ne les fait pas mentir, justement. Mais pour autant, bien sûr, croire en l'avenir, c'est continuer à ouvrir son cœur à demain tel qu'il va être. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Et j'ai fait un peu la même chose sur la mode en disant, parce que souvent on se moque de la mode, mais la mode c'est intéressant.
Suivre un peu la mode, voilà, hein, un peu c'est notre
oui, souvent si c'est pour la suivre 20 ans derrière, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est beau de savoir qu'un peuple, qu'une communauté, non pas d'individus autonomes, mais de personnes interdépendantes,
partage
cherche sans
chose.
Cesse le bien, le beau et le vrai, cherche plus de beau, et que ce beau évolue aussi, quand tout le monde met en même temps des fleurs de couleur, ou puis une année suivante, peut-être on va avoir certaines couleurs qui vont ressortir plus que d'autres, c'est aussi une quête de beau qui nous ramène à nos relations entre nous. Et quand les impressionnistes sont tous nés en même temps, parce qu'ils se sont influencés, ils ont bénéficié aussi de ce qui les avait précédés dans la peinture. Donc il y a effectivement une façon peut-être de s'ouvrir au bonheur, au petit ou au grand bonheur, qui est de prendre un peu à contre-pied les idées toutes faites que je me suis fait ou que nous nous sommes fait de ce qui se fait de bien, entre guillemets.
Et ne pas s'enfermer comme Donifan. Christiane Rancé, vous vouliez réagir ?
Oui, cette idée d'avenir, de futur, c'est nos Noël, et ce que je trouve de très très attendrissant dans ce moment, c'est ce mystère du tout petit enfant fragile et cette idée qu'il a besoin de nous. Voilà, c'est aussi ce que j'ai voulu mettre dans ce conte. Mais en ce jour particulier, il faut toujours se rappeler que Joseph et Marie nous mettent l'enfant Jésus dans les bras et qu'il ne pourra grandir qu'en fonction de l'attention qu'on va lui porter. Et là, il y a effectivement une puissance d'espérance dans l'avenir qui est à ce jour, en ce jour particulier, à l'œuvre et qui se pose à notre réflexion.
Dans votre conte, il y a aussi la présence de ce petit personnage qui vient chanter avec cette voix admirable. C'est aussi l'acceptation de l'autre, de la différence.
C'est l'acceptation de la différence, et puis c'est effectivement, c'est pas une dénonciation, parce qu'un conte n'est pas là pour dénoncer, mais c'est simplement pour souligner qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'apparence. On vit tous à la surface de nous-mêmes, donc à la surface de cette plastique qui est la nôtre, et il faut être beau, à la mode, présenter des choses, d'où cette course à la jeunesse éternelle, et en fin de compte, il n'y a plus de place pour ce qu'on appelle la beauté intérieure, c'est-à-dire cette révélation du don, d'une parole, et ce petit garçon qui effectivement n'a pas été gracié à la naissance d'une apparence physique extraordinaire, qui est bossu et nain, eh bien il a cette espèce de pouvoir magnifique, cette puissance d'émouvoir et de ramener ceux qui l'entendent à l'essentiel. Mmh.
C'était pas prévu, mais Aude est une invitée surprise du studio aujourd'hui, en ce jour de Noël. Aude, vous avez vécu 6 mois à Manille. Là, vous avez aussi rencontré l'autre. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme richesse chez l'autre ?
D'abord, la richesse des cultures. Et surtout aussi, c'est déconcertant, mais c'est la richesse des expériences de vie. Parce que j'étais dans une école de jeunes filles en difficulté. C'était une école de vie. Avec des filles entre 17 et 23 ans et qui avaient des parcours chaotiques, traumatiques. Et en fait, à travers tout ça, on se retrouve aussi parce qu'on n'a pas forcément vécu les mêmes traumatismes, mais on a tous des histoires propres. Et on s'ouvre, en fait, en s'ouvrant à leur malheur, on redécouvre aussi nos malheurs à nous et ça nous fait grandir.
Il a fallu apprendre à recevoir, peut-être ?
Apprendre à recevoir, oui. Apprendre à recevoir. Alors en fait, on reçoit pas toujours ce qu'on pense qu'on recevra. Et donc du coup, on le reçoit pas au moment où on pense qu'on le recevra. Donc il faut être prêt aussi un peu aux imprévus.
Une vraie découverte.
Oui.
Mmh. Duc de Alderville, cette différence, l'autre qui nous enrichit.
Oui, c'est vrai. Là, en réécoutant cette histoire aussi de ce petit enfant mal formé ou bossu. Je pensais à mes retours de premier séjour d'un bras ouvert auprès d'enfants dits polyhandicapés. Et nous avions pris
une association que vous avez fondée et que vous avez racontée dans un livre au même titre, bras ouvert.
Et on avait plein de photos. Et on les montrait autour de nous avec fierté. Et certains nous disaient, mais pourquoi vous prenez ces enfants en photo? Et nous, on les trouvait beaux parce qu'on les aimait. Et je pense que l'amour rend beau, et je l'ai entendu, je crois, à un moment dans ce conte, la beauté de, pas seulement du chant, mais je pense aussi que voir ce petit enfant exprimer toute sa tendresse, tout son amour, eh bien, le rendait beau. Et à l'inverse, on a vu que la méchanceté a rendu brusquement très moche le magnifique Doniphane. Et donc, voilà, je pense qu'il y a aussi ça à regarder derrière. Après, j'ai peut-être autre chose. Quand à l'instant, Christiane Rancet a parlé de l'enfant Jésus à prendre dans nos bras. Moi, je pense aussi à la parole en saint Matthieu, quand j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Donc, bardé des gènes étrangers, des gènes paternels, nous avons été accueillis, nous. Notre mère aurait dû inhiber ses défenses immunitaires, elle nous a accueillis. Et de même, le Seigneur Jésus a été accueilli d'une certaine manière comme le tout autre, comme un étranger. J'étais nu et vous m'avez habillé. Il a été habillé, effectivement, sinon il n'aurait pas survécu. Il a eu soif, il a été abreuvé, il a eu faim, etc. Il a été protégé, il a été soigné. Et en fait, toutes nos histoires commencent aussi par son histoire. Il a bénéficié de ce qui nous est demandé au jugement dernier, d'une certaine manière. Il en a lui-même bénéficié et nous en avons tous bénéficié. Et donc, dans effectivement le mystère du tout petit, enfant Dieu, vrai Dieu, vrai homme, il y a à la fois l'histoire, c'est cosmique, hein, c'est lui qui nous explique, hein, on va pas pouvoir l'expliquer, mais il y a aussi notre propre histoire de petit enfant, au fond de nous-mêmes, sommes tous des petits enfants à consoler.
En un mot, on arrive au terme de l'émission. Alors pour la fin d'année, ou peut-être déjà pour l'année nouvelle qui se profile 2019, un vœu, un mot, une idée à partager, Fanny Chirou.
Moi, je suis très touchée par la chute du conte. C'est trois mots qui sont très simples, qui nous projettent, alors qu'ils sont au présent. Et donc,
merci.
Voilà, c'est ça. Pardon, merci, je t'aime. Je trouve que c'est très beau. C'est un présent tourné vers le futur.
Christiane Rancet.
Oui, merci. La joie. Voilà, la joie et l'attention à l'autre.
Duc de Alderville.
Eh bien, l'accueil du plus pauvre aussi, se faire creux, effectivement, vide. Le plus beau cadeau qu'on a à faire, peut-être, au pied de la crèche, c'est le rien qu'il y a en nous pour qu'il puisse être comblé.
Aude.
Vive l'instant présent, faisant confiance à l'avenir.
Voilà, un beau conseil. Ben, merci à tous les quatre maintenant pour ce beau jour de Noël partagé ensemble avec le comte. Et puis ben, pour prolonger l'émission, bien évidemment, il y a 60 recettes de bonheur. L'écologie humaine en action, c'est le livre de Tuc du Halderville publié aux éditions de l'Emmanuel. L'être un jeune chrétien et à ceux qui ignorent qu'ils le sont, c'est le dernier livre de Christiane Rancet chez Talendier, paru en 2017. Merci à Pierre-Henri Paget pour le montage et pour l'émission Grand Angle. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine, la semaine prochaine, 1er janvier, avec une seule invitation, paix et douceur pour commencer 2019. Joyeux Noël.